prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, avec peu, Dieu fait beaucoup.
Je vous invite, puisqu'on a chanté que Dieu est grand, qu'il est puissant. Alors, on va vérifier cela. Et ça fait partie justement des paradoxes de cette grandeur de Dieu, de cette magnificence de Dieu, de cette toute-puissance de Dieu. C'est que cet après-midi, je voudrais vous parler de quelque chose qui nous ressemble à chacun, quelque chose qui est notre commun, le commun des hommes. Moi, je voudrais vous parler des petites choses, oui. Des petits riens. Je voudrais que nous attirions notre attention sur, tout simplement, les déficits. Ça nous connaît aussi, les déficits. Comment dire encore, tout ce qui peut être de reste insignifiant dans notre vie, où nous disons, il n'y a plus grand chose à tirer de tout cela. Alors justement, c'est ce qui fait la grandeur de Dieu. Parce que Dieu ne s'intéresse pas uniquement à tout ce qui est grand, dans cet univers en démesure, mais il s'intéresse à nous, et il connaît finalement, parfois, là où nous en sommes rendus avec pas grand-chose. Et nous allons prendre cette lecture, on va faire cette lecture dans l'évangile de Jean, et on va lire à partir du verset 1er du chapitre 6 de l'évangile de Jean, et justement on va parler des manques, on va parler des petits riens, des déficits, de tous les restes insignifiants, et là c'est justement ce qui va être souligné, des si peu de notre vie. Et vous allez voir qu'avec des si peu, Dieu est capable de multiplier et de faire des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous, mais il demande une chose, c'est que nous lui fassions confiance. La foi, est capable de transporter des montagnes, c'est l'évangile qui nous le dit, Alors, ne vous désespérez pas, parce que, en vous considérant et en regardant peut-être votre vie, en disant, mais il me manque ceci, je n'ai pas cela, et puis, regardez, j'ai plus rien dans la vie. C'est justement avec ces petits restes qu'il est capable de vous faire repartir. Vous savez, Jésus nous le dit à un moment donné, il dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Alors, un lumignon qui fume, c'est un lumignon qui est prêt de s'éteindre. Le Seigneur n'est pas venu pour l'éteindre, pour le faire disparaître, mais il est venu pour souffler dessus délicatement, pour que, de ce rien, finalement, tout cela embrase votre vie et vous amène à faire une expérience extraordinaire, parce que Dieu s'intéresse justement à tous ceux qui sont un petit peu là chancelants et où il ne reste pas grand-chose à espérer. Alors on va lire ça. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade, j'ai dit Jean chapitre 6 verset 1er, d'accord ? Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient point, pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà, alors nous avons une belle illustration des capacités infinies de ce Dieu, que nous découvrons dans la Bible, et qui est finalement à la portée de tous ceux et de toutes celles qui s'approchent de lui et qui viennent peut-être avec ce qu'on pourrait appeler des résidus de 5 pains et 3 poissons. C'est rien. C'est rien. Et nous allons découvrir que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne fait pas avec l'abondance, mais il fait souvent avec bien peu de choses. Mais il veut nous prouver quelque chose. Dieu veut nous prouver qu'il est Dieu. Voilà. Alors peut-être que tout le monde n'est pas convaincu que Dieu existe. Peut-être que tout le monde n'est pas convaincu qu'il est capable de faire cela, qu'il a le vouloir de le faire. Mais pourquoi cette histoire de la multiplication des pains se retrouve dans les 4 évangiles? Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et également dans Jean. Et si vous regardez, ça se retrouve 2 fois même dans certains évangiles. Alors, pourquoi cette répétition? Eh bien, c'est pour nous montrer justement que, quelque part, nous avons besoin, nous les hommes, de savoir que lorsque nous touchons les limites, nos limites, que nous sommes aux frontières de là où nous ne pouvons plus aller plus loin, eh bien Dieu nous est en train de faire la démonstration qu'il est capable, vraiment, de faire au-delà, comme Paul le dira, au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons même imaginer et de ce que pouvons lui demander. Alors on va découvrir un petit peu ce que cela signifie parce que, assurément, ça a dû frapper probablement les évangélistes, pour qu'ils le rapportent de cette manière. Et je crois que ce Dieu-là, c'est toujours le même Dieu. Celui qui est capable hier, qui était capable hier comme il est capable aujourd'hui, eh bien, de reproduire ce genre de choses. Vous savez, dans la vie, il y a des choses inattendues. Dans la vie, comme aux approches de la mort, où quelquefois on pose un diagnostic, on se dit « c'est terminé, il n'y a plus rien à faire », parce que bon, logiquement, naturellement, on fait le constat et bon, voilà, il n'y a plus rien à dire, on s'incline parce qu'on n'a pas le choix. Eh bien justement, et peut-être pour les auditeurs de l'Évangile, ceux d'hier comme nous le sommes aujourd'hui, ou le lecteur de la Bible de tous les temps, on s'aperçoit que on est véritablement stupéfait de voir que Dieu nous cherche. Et il veut parfois, par une certaine, provocation, nous amener à réagir positivement et favorablement, et de dire, comme nous l'avons entendu dans un témoignage de baptême il y a très très peu de temps, notre amie Béatrice nous disait, moi, quand j'ai appris le jour où j'ai eu mon cancer, que j'avais déjà perdu ma sœur qui était décédée quelques mois auparavant, quand j'ai appris que mon petit fils ou ma petite fille était aussi décédée il y a quelque temps. Et quand j'ai appris mon cancer, je me suis dit, moi je vais aller dans une église. Et puis je veux crier à Dieu que je suis pas contente. Je lui manifestais finalement, que quelque part, s'il est Dieu, qu'il se manifeste. Et raison lui en a pris parce que elle est rentrée dans une église. Et elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle lui a dit, ma famille a été frappée par la mort. Moi, je te demande pourquoi ça m'arrive à moi. Et elle a donné cet ultimatum, en quelque sorte, plein de respect et avec, de respect, mais elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a dit, Seigneur, si tu existes, tu me guéris. Ah, dites donc, extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, elle rencontre un jeune homme, qui lui-même avait fait une expérience de guérison avec le Seigneur, qui avait été guéri de paralysie. Et il lui raconte son histoire. Elle-même entend cela. Elle entend, elle reçoit cette parole, elle prie, et voilà que quelques jours ensuite, quelques temps après, elle guérit de son cancer. Ça, c'est extraordinaire. Elle croyait qu'elle allait mourir, parce que c'était une suite, pour elle, dans son esprit, une suite quasiment logique, puisque des gens, déjà, dans son milieu, dans son environnement, étaient déjà partis. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le Seigneur. Il lui restait peut-être peu de temps pour vivre. Quelle espérance pouvait-elle avoir? Elle était atteinte de cette maladie redoutable, au demeurant. Et vous savez, je pense que ce que nous avons besoin, perdu pour perdu, qu'est-ce que nous avons à perdre à nous tourner vers le Seigneur? Mais oui, qu'est-ce que nous voulons retenir? Qu'est-ce que nous voulons avoir? nous défendre nous-mêmes, combattre parfois contre des maux qui sont insurmontables, devant des situations, que ce soit économiques ou matérielles, où nous sommes véritablement coincés, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, si nous mettions Dieu à l'épreuve, si nous demandions à Dieu de nous prouver qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il est encore capable de faire pour nous ce que nous avons entendu, qu'il a fait pour les autres dans l'Évangile, mais encore dans notre temps. Vous savez, il y a une parole dans le livre du prophète Malachie qui nous dit ceci, c'est Dieu qui parle. « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir pour vous les écluses des cieux. » Vous connaissez cette parole, hein ? Elle est forte, elle est belle. Alors les écluses, je ne sais pas si vous avez vu, hein, comment ça se passe quand il y a des bateaux qui sont là dans le, hein, dans la lignée, et à un moment donné, quand on ouvre les écluses, ce sont des torrents qui viennent se précipiter justement pour faire le niveau, naturellement. Eh bien, Dieu est capable, véritablement, dans notre vie, de faire le niveau, là où nous sommes en bas, là où nous n'avons plus que peu de choses, où nous sommes confrontés avec des petits riens, avec des manques, avec des déficits, et puis des restes insignifiants, il est capable de nous remonter à niveau et à surface. Alors, l'histoire. L'histoire, il nous est simplement rappelé que Jésus se trouve en Galilée, comme il avait l'habitude, et une foule le suit, nous rapporte l'évangéliste Jean. Et les gens étaient intéressés par une chose, non pas pour Jésus, mais par les miracles que Jésus faisait. Ah, ça, c'était quelque chose qui les avait interpellés, parce que ils se disaient, mais il a quand même un pouvoir, cet homme. Certes, il parle bien, certes, il nous dit des choses que nous n'avons jamais entendues. C'est pas dans nos synagogues que l'on entend ces choses. Donc, une parole qui touche les cœurs, qui bouleverse les gens. Mais il y avait derrière tout cela, eh bien, des signes et des prodiges et des miracles. Et ça, ça les intéressait, les gens de la Galilée. Parce que il nous est dit que ça s'adressait particulièrement aux malades. Vous savez, quand on est malade physiquement ou moralement, on est vraiment en déficit, hein. On n'est pas dans notre anormal. Hein. Et la puissance de la guérison divine, c'est de nous faire remonter à niveau, justement, de nous redonner une santé et de pouvoir vivre normalement. Alors, il opérait des miracles. Hein. Alors, Jésus, à un moment donné, est monté sur la montagne. Et puis là, il s'est assis avec ses disciples, comme il le faisait probablement, pour parler avec eux, pour prier, pour les enseigner. Et au bout d'un certain temps, il a levé les yeux, puisqu'il avait de toute sa visibilité. Hein. Quand on dit montagne, ce sont les collines hein, qui sont autour du lac hein, de Tibériade, le lac de Galilée. C'est pas très haut, mais néanmoins, eh bien, ça peut. C'est un promontoire pour voir un petit peu tout ce qui se passe tout autour. Alors, il a levé les yeux, et là, il a aperçu cette grande foule qu'il avait suivie jusqu'alors. Et cette foule s'approchait par vagues. Elle s'approchait de lui. Ils avaient encore besoin de voir Jésus. Ils avaient encore besoin d'entendre Jésus. Ils avaient encore besoin de voir ses miracles, d'être dans sa présence. Alors, Jésus, voyant ça, a pensé à autre chose que ce besoin moral de contact, ce besoin spirituel. Jésus a pensé qu'il devait avoir faim. Comprenez ? Parce que d'autres textes nous rapportent que la nuit allait tomber. Le jour était à son déclin, et Jésus s'est interrogé en disant, mais ces gens, ils viennent, ils ont des besoins, ce sont des gens qui sont malheureux, malheureux dans bien des domaines, ce sont des gens qui, eh bien là, ont faim et soif de quelque chose. Alors, il a pensé qu'ils auraient certainement aussi besoin de pain, comprenez? Parce que pour faire le retour à leur maison, en pleine nuit, il fallait qu'ils... puissent trouver quelque nourriture. Et là, c'était un lieu désert, nous rapporte aussi un autre évangéliste. Alors Jésus, donc, va se tourner vers Philippe, un de ses compagnons de la première heure. Et là, il va dire, mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe aurait pu lui dire, écoute, ils sont pas venus pour manger, ils sont venus pour t'écouter. Ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Tu vois, regarde, c'est extraordinaire. Ces gens qui viennent par milliers, parce que c'est par milliers, hein, ils sont venus pour des choses autrement que finalement, eh bien, pour manger, tout simplement. Mais Jésus va aller plus loin. Et cette question que Jésus pose à Philippe était pour voir où en était rendue la capacité des disciples de croire dans le pouvoir miraculeux de Jésus. Puisque, on l'a vu, il disait cela pour l'éprouver, parce que Jésus savait à l'avance ce qu'il allait faire. Ouais, il avait déjà, et il savait déjà ce qu'il allait faire. Alors, les choses sont ainsi et se présentent. Et puis Philippe, comme nous le ferions nous-mêmes et comme nous le serions nous-mêmes, en bon raisonneur, et on a l'habitude de faire des calculs, on a l'habitude de faire des analyses, on se dit, mais une foule à perte de vue. Il n'y a aucun boulanger, il n'y a aucun marchand qui pourrait nous donner la nourriture suffisante pour que ces gens ne repartent pas tout simplement et bien avec le ventre creux. Alors, Philippe lui répond, mais les pains ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Même s'il y en avait, mais comment veux-tu nourrir une foule pareille? C'est pas possible. C'est inconcevable. Ce n'est absolument pas réalisable. Ça serait pas suffisant. Alors, les pains donc, même 200 deniers, pour que chacun puisse en recevoir. Et puis il y a un autre disciple qui va intervenir dans la conversation, il s'appelle André, on sait, c'est le frère de Simon-Pierre. Lui, il a une idée. Il propose quelque chose qui va nous avancer un peu dans notre réflexion. Il va dire, j'ai vu un petit garçon. C'était peut-être un adolescent, enfin en tous les cas, un jeune homme. J'ai vu qu'il avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, déjà, même si on avait 200 deniers, ça serait complètement insuffisant. Et puis, peut-être, je ne sais pas dans quelle intention André a dit cette chose, mais 5 pains et 3 poissons, c'est encore moins. Mais on les a, par contre on les a. Les 200 deniers, on a les 200 deniers, mais on n'a pas les magasins ou l'approvisionnement pour pouvoir les dépenser et se procurer de la nourriture, et ça serait pas suffisant. Mais par contre, là, on a quelque chose de concret. On a, ce peu, mais c'est quand même quelque chose. Et il va ajouter cela, André, avec toujours un petit peu cette réserve que nous pouvons avoir nous-mêmes, c'est le doute. Et il va dire, mais c'est bien, c'est vrai, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Donc il y a à un moment donné une espérance qui se fait jour, un espoir, mais ô combien insuffisant, et puis après tout en réfléchissant en disant, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ou alors vraiment ça va être des miettes. Et encore, y aura-t-il suffisamment de miettes? Donc, on bute là. À ce moment-là, on est à la frontière, on fait face à l'impossible. Mais que faire d'autre? On ne peut rien faire. Alors, Jésus ne va pas épiloguer, il va pas dire ce qu'il va faire, il va tout simplement faire la démonstration de ce qu'il va faire, il va leur montrer que, avec lui, tout devient possible. Et il va répondre simplement. Il va dire, faites-les asseoir. Bon, on n'est pas plus avancé. Il n'y a toujours pas de nourriture. L'argent ne peut servir à rien parce qu'on ne peut pas le dépenser. Les 5 poissons et les 5 pains et les 3 poissons, c'est absolument en deçà, mais alors infiniment en deçà. Et Jésus pourtant dit, faites-les asseoir. Vous savez, la position assise, c'est quand même une position où l'homme se met dans un espace de tranquillité. Comprenez? Vous l'êtes, cet après-midi. Et je pense que ça nous permet de réfléchir. Voilà. Et il se prépare quelque chose. Quand on va à un spectacle, on s'assoit et on attend. On sait à peu près ce qui va se passer. Mais là, il ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'était pas du spectacle. Faut pas se méprendre. Et les gens qui venaient voir Jésus pour voir du miracle, là, ils vont en avoir un. Mais alors, à une dimension inimaginable, naturellement. Alors donc, il leur a dit tout simplement, faites-les asseoir. Et ça devait se passer probablement au printemps, comme à cette époque, naturellement. Et il nous est dit, mais il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Et dans le texte de Marc, il nous est dit de l'herbe verte. Parce que quand vous allez en Galilée, vous allez voir, si vous y allez au mois d'août, c'est pas vert du tout. Donc ça devait être, et puis c'était la préparation de la Pâque, donc à cette saison, on peut imaginer. Alors, les choses sont dites avec... il y a des petites choses qui nous laissent entendre, le contexte dans lequel les choses se passent, ou vont se passer. Toute cette foule va s'asseoir au nombre d'environ 5000 hommes. Et vous remarquerez avec moi, sans compter, comme dit un autre passage, sans les femmes et les enfants. Alors, si chacun a une femme, ça fait 10 000. S'ils ont, il y avait familles nombreuses à l'époque, Oh bon, j'arrête là de compter. Mais ça devait faire du monde, Imaginez-vous, plusieurs milliers en tous les cas. Alors Jésus a pris les pains, il a fait une chose. Il a pris les pains, il a rendu grâce, simplement. Il s'est tourné vers le Père Céleste, vers son Père Céleste. Et il a dit merci. Merci, non seulement pour ce que tu vas faire, parce que Seigneur, tu m'exauces toujours, je sais que tu m'exauces toujours, comme au tombeau de Lazare. Mais Seigneur, je sais que toi qui es dans le ciel, nous qui sommes sur la terre, tu es capable de faire descendre le ciel sur la terre pour les hommes, pour répondre à leurs besoins. Et c'est ainsi que les choses vont se passer. Et il dit merci, il rend grâce avant de recevoir. Vous savez ce que ça témoigne, parce que Jésus est un modèle, est un exemple pour nous dans ça, en la matière. C'est qu'il n'a pas regardé au peu. Il n'a pas regardé à ses 5 pains et ses 3 poissons. Il a remercié avec ce qu'il y avait. Et je voudrais vous dire cet après-midi, les uns et les autres, considérez donc ce que Dieu vous a encore laissé, ce qui vous reste, parce qu'avec cela, il est capable de le multiplier. Ne dites pas, Seigneur, il me reste rien. Ne dites pas, je n'ai plus rien. Il me manque tout. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le si peu? Je veux vous dire que si vous êtes malade, ou si vous avez un problème d'une façon ou d'une autre, vous savez ce qui vous reste? Même si vous êtes en souffrance et en difficulté, vous n'êtes pas mort. Vous avez encore la vie. Vous allez me dire, ce sont des pensées peut-être un peu osées, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Et même si nous étions morts, Dieu est capable de nous ressusciter. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes toujours en train de regarder ce qui nous manque, et jamais ce que nous avons. Ouais. Alors, c'est ça ce qui est important, parce que c'est avec les faibles commencements, c'est avec les petits riens, les petites choses, avec ce que l'apôtre Paul appellera en parlant de Dieu, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ah oui, et ça c'est étonnant, parce qu'on se dit, mais comment Seigneur? Ah oui, mais comment Seigneur? Mais comment peut-on dire ça au Seigneur, puisqu'il est le créateur de tout? Alors, vous savez que tout a été créé à partir de rien, hein? Oui, parce que toute la création procède de l'esprit. Voilà. Et s'il y a cette profusion autour de nous dans la création merveilleuse, création de Dieu, c'est que Dieu a trouvé bon de faire les choses ainsi. Et pour nous-mêmes, souvent nous sommes dans une attitude qui détruit notre foi, qui neutralise l'action de Dieu, c'est que nous disons, Seigneur, nous n'avons plus rien. Or là, il y avait une foule immense. Il y avait 5 pains, 3 poissons. C'était peut-être pas grand-chose, mais c'était quand même quelque chose. Et considérons dans notre vie, dans notre lutte, dans notre combat, dans tout ce que nous avons à lutter pour cette existence, qu'il nous reste toujours quelque chose. Et la vraie foi, la belle foi des hommes, c'est quand on est capable de se saisir des petites miettes à l'image de la cananéenne qui vient prier Jésus de guérir sa fille qui finalement est profondément malade. Eh oui! Ne disons pas, parce qu'à ce moment-là, nous sommes et nous fonctionnons à l'envers. S'il me reste encore, et on le dit dans ce proverbe, cette maxime populaire, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, alors, si déjà les gens incroyants le disent, nous devrions dire autre chose. Vous savez, quelquefois, on a été confronté avec l'inattendu et vraiment le... Comment dire l'inattendu et l'impensable avec le Seigneur. Nous avons pensé que quelquefois certaines personnes, et je me souviens d'un homme où les médecins avaient dit, c'est un chrétien, il est parti dans la gloire, mais Dieu lui a donné 20 ans de sursis à sa vie, et tout le monde, les médecins, il était à l'hôpital de Nantes, et les médecins avaient dit, il va mourir, il n'y a plus rien à espérer. Et vous savez, cet ami, qui s'appelait Marcel, avait dit, Seigneur, on est si peu pour prier là où on est. Ouais. Il était à la mort, il avait fait une septicémie, il était vraiment dans un état à partir. Il a dit, mais tu vois, regarde, tu nous as placés dans une région, c'était la vallée de la Loire, un peu plus haut en allant sur Angers. Et il a dit, mais on est si peu pour prier, mais si moi je pars, eh bien, il va y avoir un de moins, tout simplement. Et il a saisi dans la foi, alors qu'il était malade, il était à mourir. Et là, Dieu est intervenu. Et il l'a relevé miraculeusement, les médecins étaient en train de regarder en disant, mais c'est pas possible. On allait justement, eh bien, terminer avec cet homme parce que il était à la mort. Ouais. Eh oui. Lui avait dit simplement cette petite prière en disant, et c'était quelqu'un de très humble, hein. Vraiment. Et il a dit, mais Seigneur, voilà. On est peu pour prier, mais moi je voudrais encore vivre pour prier pour le salut des âmes. C'est comme ça, hein. Et notre ami, eh bien, il a vécu 20 ans de plus. Ouais. Il est arrivé, il est parti, je crois qu'il avait 85 ans. Et c'est pour dire que, voilà, avec le peu, avec les petites choses qui nous restent, avec le sentiment de nos manques, mais quand il y a encore, malgré nos manques, il y a encore une petite flamèche, il y a encore une petite graine, une petite semence, mais Dieu est capable de le multiplier à l'infini, hein, c'est extraordinaire. Alors ça, nous avons besoin de bien le comprendre. Alors, tous ces hommes s'assoient, Jésus prend le pain, il rend grâce, et il va tout simplement faire la distribution, mais pour l'instant, il n'y en a que cinq, hein. Cinq et trois. Et les disciples sont là. Comment peut-on faire? Et vous savez comment les choses se sont passées? Exactement dans le même processus et le même phénomène que tous ceux que Jésus a guéris d'une manière physique. Quand il dit, par exemple, au paralytique, prends ton lit et marche. Avec le petit peu, vous allez dire à un paralytique, eh bien, tu te lèves, il va vous répondre, mais moi je peux pas. Je ne peux pas puisque je suis paralysé. Eh bien, c'est l'acte de foi déclencheur qui permet à Dieu, finalement, eh bien, de faire le reste, c'est-à-dire de nous mettre debout et de marcher. À l'aveugle, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Je peux pas, je suis aveugle. Il y va quand même. Et c'est en allant, finalement, qu'il va être guéri. Les lépreux, les 10, vous connaissez l'histoire? Eh bien, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils vont y aller. Et c'est en allant qu'ils vont être guéris. Écoutez, il y a un acte de foi de la part de chacun et de chacune d'entre nous. Peut-être vous avez justement peu de choses à votre disposition, mais avec le peu de choses que vous avez, le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Moi, je le crois. Mais il y a un acte de foi, c'est le mettre en mouvement notre foi, et c'est ça ce qui plaît à Dieu. Vous allez dire, je peux pas. Ben, tant que vous direz, je ne peux pas, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous demandez, comme le père de l'enfant qui était épileptique, en disant, Seigneur, mais comment cela peut-il se faire? Est-ce que c'est possible? Et là, il va se raviser à un moment donné, parce que Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, le père, à ce moment-là, il va dire, mais secours-moi, viens au secours de mon incrédulité, je crois. C'est toujours ça ce qu'il faut mettre en avant. Vous avez besoin de quelque chose, et nous avons besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous reste dans votre mémoire des promesses de Jésus? Qu'est-ce qui vous reste peut-être dans vos poches? Enfin, je ne parle pas d'argent, naturellement, mais vous avez encore quelque chose. Et c'est avec ce quelque chose, une petite chose qui vous reste, c'est avec ça que Dieu va agir. Certains disent, ah, si j'avais une grande foi, ma foi n'est pas assez grande. Ou on le dira peut-être à quelqu'un, ta foi n'est pas assez grande, mais arrêtons avec ça. C'est le Seigneur qui donne la foi. Vous prenez la parole, vous vous remplissez de cette parole et vous demandez à Dieu pour que, à partir de cette parole, votre foi se développe. Et la foi, ce n'est pas quelque chose d'inactif, d'immobile. C'est quelque chose de vivant, quelque chose qui avance. Je crois donc les choses vont se faire et c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. C'est extraordinaire et c'est merveilleux. Il n'y a pas de plus belle chose que la foi. Moi, je suis toujours étonné, après des années, de voir le côté extraordinaire que produit la foi. Avons-nous encore des besoins? Dans notre monde, nous nous sommes rassasiés. Non pas comme les gens sur les collines de Galilée. Ils avaient faim. Et Jésus avait vu qu'ils avaient faim. Et parce qu'il avait vu qu'il avait faim, eh bien, il y avait encore quelque chose, justement, à leur donner. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les gens n'ont plus faim. Enfin, façon de parler. Mais plus faim. Moralement, ils ont plus faim. Ils sont rassasiés. Ils n'en veulent plus. Bien qu'ils courent toujours après des nouvelles choses. Alors, quant aux choses spirituelles, je peux vous dire qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. La table que le Seigneur a dressée devant nous pour que nous puissions nous rassasier en joie, en paix, en bonheur, et puis en valeur d'éternité également. Alors les voilà assis. Et Jésus va donner, ben oui, mais s'il y a cinq pains, je vais le donner aux cinq premiers, s'il y a trois poissons, je vais le donner aux trois premiers. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Jésus a fait le geste. Il a, et les autres ont tendu la main, quand Jésus leur a donné les cinq premiers pains. Et puis, comment dire? Comment expliquer un miracle? Je pourrais pas vous l'expliquer parce que ça s'explique pas. On pourrait pas dire, hein, naturellement. Alors il donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Vous avez marqué? Comment c'est? C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens tendaient la main, bien ça arrivait. Tout simplement. Est-ce que nous pourrions pas tendre la main de la foi pour que Dieu la remplisse? Est-ce que nous pourrions pas ouvrir nos cœurs pour que Dieu nous dise, eh bien, que nous puissions dire au Seigneur, eh bien, remplis ma vie et remplis mon cœur? Parce que vous savez, les richesses de Dieu, les trésors de Dieu, ils sont infinis. Nous, on est limités sur la terre, hein. Mais dans le ciel, la provision est sans compter, hein. Et Dieu se glorifie lorsqu'il voit des hommes et des femmes qui sont à tendre la main en disant, mais Seigneur, eh bien, donne-moi demander. et vous recevrez. Oui. Demandez. En laissant le doute, en laissant nos craintes, en laissant nos peurs, de chaque côté comme si nous allions percevoir. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous donner, mais c'est nous qui ne sommes pas prêts à recevoir ce que Dieu nous a préparé. Écoutez, on va penser sans transition. Il nous est dit qu'ils en eurent autant qu'ils en voulurent. Ah, dites donc, ils ne s'attendaient pas à ça. Imaginez-vous ces milliers de gens qui vont manger à partir de 8 éléments tellement insignifiants. Ça nous dépasse, ça. Les restaurants du cœur auraient besoin de ça. Ah oui, vous vous rendez compte, ils sont toujours en déficit. Oui. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de déficit, en tous les cas. Ceux qui mettent leur espoir en Dieu, on n'est jamais déçu ni confus. Alors on va passer autant qu'ils en voulurent, et la phrase qui vient après, et ils furent rassasiés. Ou lorsqu'ils furent rassasiés, ça voulait dire que c'était pas seulement un petit morceau de pain, une petite tartine, mais ça veut bien dire qu'il y en a eu en abondance. Ouais, vous savez, le Dieu qui répandait pendant 40 ans dans le désert la manne sur les enfants d'Israël, tous les jours, sans interruption pendant 40 ans, il pouvait quand même aussi être capable de multiplier les pains et les poissons. Celui qui était capable d'envoyer les cailles, parce que ça avait été demandé aussi les cailles, et à une telle profusion qu'à un moment donné, les Israélites ont dit « Arrête Seigneur, parce que là on les vomit par les oreilles, les cailles, il y en a trop ». Ben oui, ouais, notre Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu qui ne laisse personne dans la disette, ceux qui se confient en lui. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose. Et nous avons besoin vraiment de le saisir, ça. Parce que ce Dieu-là, c'est notre Dieu. C'est votre Dieu. C'est le Dieu des hommes et des femmes qui mettent leur espérance dans les promesses de Dieu, qui comptent sur les promesses de Dieu. Mais il y a de la dispute, il y a de la discussion autour de tout ça. Parce que combien nous sommes quelquefois contestés dans notre cœur. Oh, je sais qu'il y a l'adversaire qui est là, mais quelquefois c'est nous-mêmes. C'est possible, c'est pas possible, il va le faire, il va pas le faire, et puis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Oh là là. Autant qu'ils en voulurent, et ils furent rassasiés. Alors, à ce moment-là, Jésus va leur donner cet ordre pour montrer que notre Dieu est un Dieu où il n'y a pas de limite avec lui. Il a dit à ses disciples, vous ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oui, vous savez que c'est dans les restes, quelquefois que nous trouvons notre contentement. On parlait tout à l'heure de la femme cananéenne, qui, dans cette humilité qui était la sienne et qui a touché le cœur de Jésus à tel point que Jésus dira, même en Israël, parce que c'était une païenne, elle était de Canaan, et il dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, parce qu'elle demandait la guérison à sa fille. Et puis Jésus, d'une façon qui était la sienne, de la manière qui était la sienne, lui a dit, mais moi je suis venu que pour m'occuper des brebis d'Israël. Et cette femme a eu une réponse pleine d'intelligence et de bon sens spirituel. Elle lui dit, d'accord, oui, mais les enfants, ce sont les Juifs. Mais les Juifs, quand tu fais des miracles, ils les méprisent. Ils veulent même pas croire que tu es le Messie, que tu es l'envoyé de Dieu. Mais moi qui suis une païenne, moi qui connais pas grand-chose, en tous les cas, je sais que toi, ce que tu dis, Jésus, que ta parole, eh bien, c'est la vérité. Alors même si eux, ils ne mangent pas à table, ils ne veulent plus ce qu'il y a sur la table, moi, je me mets en dessous de la table comme des petits chiens et je prends des miettes. Et les miettes, c'était la guérison de sa fille. Il y a des miettes cet après-midi à prendre. Ouais, il y a des miettes. Et le Seigneur va nous les montrer. On a vraiment besoin, et moi je le sens pour moi-même, et je vous le dis aussi. L'expression de ce besoin, c'est partager. Mais on a vraiment besoin de grandir dans la foi. Et vous savez, ça sera pas dans les grandes choses. Moi, quelquefois, quand je vois les croyants, les chrétiens, qui disent « Seigneur, montre-nous des grandes choses !» Oui, d'accord, le Seigneur est capable de faire des grandes choses. Mais les grandes choses ne viendront que si on commence par les petites. Si on est capable de croire au moins, on croira plus. Vous comprenez? Et c'est pas la peine d'aller courir de droite et de gauche pour aller voir un prophète ou prétendu prophète pour faire ceci et cela. Parce que si c'est le visible qui nous fait marcher, si c'est finalement l'émotion de nos cœurs et puis l'attirance des yeux, Jésus leur dira, eh bien si vous ne voyez les miracles, vous ne croyez pas. Il avait raison, Jésus. Il dira ça à un homme et aux Galiléens de son temps. Et c'est pas ça ce qui marche. Mais avec les promesses. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne, dira, mais qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Une parole dans la Bible, vous dites que c'est la parole de Dieu. Et vous croyez à une parole, une lettre morte? Mais nous, la parole de Dieu, elle est pas morte, elle est vivante. Ah, ça, c'est sûr. Et les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais ils sont fous, de croire des choses pareilles. Ouais. Est-ce que Dieu pourrait ouvrir les fenêtres du ciel, comme disait un homme dans l'Ancien Testament? Eh bien oui. Dieu est capable d'ouvrir non seulement les fenêtres du ciel, mais il est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Et ça, ça change les choses. Hein. Il est capable de grandes choses. Est-ce qu'il n'aurait pas fait de grandes choses dans notre vie, jusqu'à maintenant? Nous nous en souvenons. Eh bien, c'est avec ce souvenir qui nous reste que nous pouvons aller encore plus loin aujourd'hui. Seigneur, remplis notre cœur de foi. Dynamise-nous, visite-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions croire à ta parole. Mais le Dieu d'hier est toujours le même Dieu aujourd'hui. Il est toujours pareil. C'est nous qui avons besoin de nous approcher de lui et de lui dire, Seigneur, nous avons faim. Alors nourris-nous. Nous avons faim, Seigneur. Donne-nous ce qui nous est nécessaire. Alors ramassez les morceaux qui restent afin que personne ne se perde. Et ils les ramassèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Heureusement qu'il nous reste la Bible, hein, au fond des paniers. Heureusement qu'il nous reste les promesses de Dieu, au fond des paniers. Et quels paniers, hein? Ce sont des paniers merveilleux. Ouais. Les livres de la Bible, ce sont des contenants d'une parole extraordinaire pour chacun d'entre nous, pour nous amener à grandir et à nous développer et à puiser tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur de ce que tu as laissé cela aux hommes aujourd'hui. Et vous savez que c'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire d'avant-hier et d'autrefois. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Alors ils ont rempli les paniers des morceaux qui restèrent, parce qu'avec Dieu rien ne se perd. Et le Seigneur veut que nous gardions et que nous ne perdions pas ce qu'il nous a donné. Alors des gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Ah, celui-ci est vraiment le prophète. Aucun problème, c'est celui qui doit venir dans le monde. » Ils étaient sur la voie, hein. Mais Jésus n'est pas seulement le prophète. Jésus est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé du Dieu vivant. Et Jésus est Dieu. Il faut le dire, hein. Ça c'est important. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, eh bien, c'est un homme. Et il n'est pas capable. Mais parce que Jésus est Dieu, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il est capable, finalement, eh bien, de répondre à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Vous savez ce que Jésus voulait mettre en garde et se prémunir? C'est d'une foi émotionnelle, une foi sentimentale. Ouais. Jésus veut construire une foi spirituelle, une foi qui repose non pas sur ce que nous voyons, mais sur ce qu'il nous déclare et que nous croyons dans sa parole. Et c'est ça justement toute l'ambiguïté. Aujourd'hui, beaucoup de gens fonctionnent en disant, bien, moi quand j'aurai vu, Thomas, vous connaissez, hein, quand j'aurai vu, je croirai. Le Seigneur nous dit, tu commences par le petit. Tu commences par le côté peut-être hein, le plus insignifiant, le moins attrayant. Tu commences à croire et tu verras ensuite. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras combien mon Dieu, combien ton Dieu est puissant et est grand. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi. Alors les petits riens, comme nous parlions tout à l'heure, nos manques que nous ressentons, les déficits de notre vie, les restes insignifiants, ce qui ne compte pas ou ce qui ne compte plus ou ce qui compte pour rien, les si peu, les petites choses. Eh bien sachez une chose, c'est que Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient pour lui. Et parce que nous croyons qu'elles sont déjà dans le ciel, elles seront bientôt pour nous sur la terre. Dieu va les réaliser. Alors accrochons-nous, faisons confiance au Seigneur et que Dieu nous bénisse cet après-midi. On va garder cette parole et on va prier. Simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es le Dieu de l'infini, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'extraordinaire. Tu es le Dieu de l'impensable pour nous les hommes, pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que si tu as permis, Père éternel, que cette drôle d'histoire de la multiplication des pains et des poissons soit restée, Seigneur, dans la Bible, dans l'Évangile, c'est qu'il y a quelque chose pour chacun et chacune, encore aujourd'hui pour nous tous. Oui, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton école. Et ce matin, Seigneur, avec mes amis, eh bien, nous venons simplement venir en te disant, mais Seigneur, nous n'avons plus que 5 pains et 3 poissons. Qu'est-ce cela, Seigneur? Nous pourrions dire, mais Seigneur, avec 200 deniers, qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors tu nous réponds tout simplement, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de quantité ou de volume d'argent. Ce n'est pas une affaire de ceci ou de cela. Viens avec ce que tu as. et avec le peu, moi je suis capable d'en faire beaucoup. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Mais il faut avoir cette confiance en toi. Il faut te faire foi sur tes paroles. Et il faut croire que, Seigneur, lorsque nous semble que tout s'arrête, qu'il y a un terme, que les réserves sont épuisées, eh bien, Seigneur, c'est encore toi qui nous dis, mais il y a encore là une bénédiction. Il y a encore une possibilité d'abondance. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que lorsque nous considérons comment est fait ton message de l'Évangile, comment est fait le message du royaume des cieux, Seigneur, tu ne commences jamais par le grand, tu commences toujours par le petit, avec un grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les graines, eh bien nous pouvons nous apercevoir qu'avec un grain de sénévé, tu en fais un arbre gigantesque. Avec, Seigneur, si peu, Seigneur, tu es capable de le multiplier, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons et au-delà de même ce que nous imaginons. Seigneur, je viens cet après-midi. Je veux te dire, j'ai faim de toi, Seigneur. J'ai faim de ta parole. J'ai faim, Seigneur, de connaître davantage les capacités infinies de mon Dieu. J'ai faim et j'ai soif, Seigneur, que tu fasses la démonstration, Seigneur Jésus, dans mon besoin, Seigneur, que tu t'intéresses à moi, que tu penses à moi et que tu as déjà pourvu dans le ciel. Eh bien, Seigneur, dans tes réserves, dans, Seigneur, tes provisions célestes, que tu as, Seigneur, eh bien, des trésors, en effet, Père éternel, que tu veux nous donner. Seigneur, je veux te demander, et nous voulons te demander, Seigneur, pardonne notre petite foi. Oui, Seigneur, pardonne notre faiblesse, pardonne souvent notre incrédulité, nos doutes. Seigneur, nous voulons te demander que tu viennes véritablement, Seigneur, nous donner dans un élan, Seigneur, de foi, et bien de saisir, de ravir les trésors divins, parce qu'ils sont pour nous. Et nous croyons, Seigneur, que s'il y a une chose qui remplit l'âme de Dieu, qui remplit Dieu de plaisir et de bonheur, c'est de voir ces créatures, de voir les hommes et les femmes te faire confiance. Et Seigneur, en retour, c'est toi qui ouvres les écluses des cieux. Oui, tu nous le rappelles. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, Seigneur, nous venons devant toi, et nous croyons, Père éternel, que ceux et celles qui ont entendu ta parole, qui l'entendront encore, eh bien, soient maintenant, Seigneur, en capacité de s'abandonner complètement et de totalement entre tes mains. Et ainsi, Seigneur, avec peu, eh bien, tu es capable de le multiplier à l'infini. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.